Le désespéré, chapitre 20. L'aventure de la seconde morte n'avait pas été moins tragique. Celle-ci, Marche Noire ne l'avait pas épousée sur un grabat de déjection, dans le gueulement d'épithalame d'une porcherie d'ivrogne en rut. C'était une de ces pauvresses d'esprit de la débauche, à casser les bras à la justice. Une de ces irresponsables chasseresses, ordinairement bredouilles, du rognon pensant, sommelière sans vocation, inhabile à soutirer la futaille humaine. Il l'avait trouvée une nuit, dans la rue, désolée et sans asile. Son histoire, infiniment vulgaire, était la navrante histoire de 100 000 autres. Séduite par un drôle sans visage, que d'incrustables espaces avaient presque aussitôt englouti, chassée de sa pudibonde famille et ballottée comme une épave, elle était tombée sous la domination absolue d'un de ces sinistres voyous naufrageurs, moitié souteneurs et moitié mouchards, qui monopolisent à leur profit la camelote de l'innocence. Forcée depuis des mois de transmuer sa chair en victuaille de luxure sous la menace quotidienne d'épouvantables volées, la malheureuse, décidément inapte, mourante d'horreur et n'osant plus réintégrer l'horrible caverne, accepta sans hésitation les offres de service de Marche Noire, exceptionnellement galionnées de quelques pièces de 100 sous. Incapable d'abuser d'une pareille détresse et remplie d'évangéliques intentions, celui-ci dormit sur une chaise plusieurs nuits de suite, cachant dans sa chambre et dans son lit cette désirable créature qui tremblait à la seule pensée de sortir. Il fallut devenir amoureux et le devenir passionnément. Le fragile chrétien interrompit à la fin ses dormitations cathédrales et une grossesse imprévue récompensa bientôt sa ferveur. Il gagnait alors un peu d'argent aux archives de l'État, comme harponneur de documents onctueux, pour le compte d'un fabricant d'huile de baleine historique de l'Institut. Cette énorme aggravation de sa misère ne l'épouvanta pas. Praticien du concubinage héroïque, la circonstance d'un enfant à naître, loin de le troubler, lui parut un bénissable surcroît providentiel de tribulation. Un soir, la grossesse étant déjà fort avancée, on rapporta chez lui sa maîtresse à moitié morte et l'enfant naissant. La mère, étant tombée sur son ancien éditeur, avait été rouée de coups et sauvagement piétinée, au conspect d'un troupeau de boutiquiers dont pas un seul n'intervint. L'infortunée expira dans la nuit, après avoir accouché avant terme, laissant au seul ami qu'elle eût jamais rencontré le souvenir crucifiant de la plus délicieusement naïve des tendresses. Fauvement, il se jeta à son fils. Dans cette âme d'ancêtre, altérée de dilection, le sentiment paternel éclata comme un incendie. Ce fut une nouvelle sorte de délire, fait de toutes les agitations précordiales du passé et de toutes les antérieures tempêtes, un épitomé sublime de toutes les procellaires véhémences de la passion, enfin clarifiée, spiritualisée, concentrée, et dardée uniquement sur le berceau de cet enfantelé débile. Redoutant les meurtrières abominations des nourrisseries lointaines, il voulut le garder auprès de lui, et, à force d'amoureuse énergie, parvint à le faire vivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Ce que cela lui coûta, lui-même n'aurait pu le dire. Mais il voulut être heureux de souffrir, et se fit une volupté de râler toutes les agonies. Pour son enfant, il aurait accepté de cheminer dans une voie lactée de douleur. Lorsque, après avoir fait n'importe lequel des 15 ou 20 métiers humiliants que la nécessité lui suggéra, il venait le reconquérir chez une vieille voisine qui le gardait en son absence. C'était un cri et une extase. Il prenait ce petit être comme Hercule dut prendre le grand Anté, fils de la terre, avec des bras enveloppeurs que l'écroulement des cieux n'aurait pu désenlacer. il l'emportait dans sa chambre, comme un ravisseur, et le roulait éperdument dans son sein. C'étaient des baisers de folie, des balbutiements, des cataractes de pleurs. Il sortait de lui de si pénétrants effluves d'amour que l'enfant ne sentait aucun effroi de toutes ses furies et ne tremblait que du tremblement de douceur de ses bras terribles. Voyant son père toujours en larmes, il lui essuyait les yeux du bout de ses faibles doigts, trop pâles. « Pauvre petit père, ne pleure pas. Tu sais bien que ton petit André ne veut pas mourir sans ta permission, » lui disait-il. La dernière fois qu'ils se virent, avec une précoce et surprenante lumière de pitié dans les deux lampes sépulcrales de ses vastes yeux d'enfant marqués pour la mort. Cette frêle créature devait normalement expirer bientôt sur le cœur du malheureux homme qui ne pouvait pas être le thaumaturge qu'il aurait fallu pour l'empêcher de mourir. Même cette redoutable consolation ne lui fut pas accordée. La destinée, jusqu'alors simplement impitoyable, se manifesta soudain si noirement atroce, si démoniaquement hideuse, que le hurlement identique d'une éternité de damnation put être défié d'exprimer la touffeur de désespoir d'un plus hermétique enfer. Comment la chose arriva-t-elle exactement? Ce réprouvé ne parvint jamais à le savoir. Après 3 jours d'une disparition que personne ne put expliquer, le corps du pauvre petit fut découvert par le verdier à la morgue, entre un noyé et une assommée qui ressemblait vaguement à sa mère. Il fut établi que le sujet était mort d'inanition. Comment et pourquoi? Question sans réponse, mystère insoluble que rien ne put éclaircir. Ce fut le bon Leverdier qui passa de jolis instants. Marche Noire eut 15 jours de frénésie admirablement caractérisée. Il fallut l'intervention du commissaire de police pour l'enterrement et 8 paires de robustes bras pour lui arracher le corps de son fils. Il ne se retrouva lui-même qu'au bout de 2 mois, d'une sorte de fièvre turbulente, son organisme puissant ayant vaincu, pour lui seul, hélas, la mort jugée presque inévitable, 12 fois. Chapitre 21. On conçoit maintenant ce que pouvaient être les idées et les sentiments de Marche Noire, veillant le cadavre de son père qu'il s'accusait d'avoir fait mourir. Le retour spectral de ses propres songes de béatitude paternelle, éclairé d'une lumière fantastiquement désolée, à la manière d'une lune déclinante et rasant le niveau des eaux. La vengeresse coalition de ses remords. Les remontrances expiatrices de son passé lui faisaient une fois de plus, indéniablement manifeste, l'inoxydable équité des glaives dans les cœurs qui sont à point pour être transpercés. C'était vrai, cependant, que pour lui, les glaives avaient été jugés par trop nobles. Ce qu'il avait enduré, c'était une transfixion de pilotis, enfoncés à coups de marteau qui pesaient le monde, avec 100 000 hommes au cabestan. Mais, en cet instant de méditative rétrogradation de sa conscience, envahi du grandiose quasi-divin de la paternité et mesurant à ses souffrances personnelles les présumables souffrances du mort, il se persuadait qu'une justice incapable d'erreur s'était exercée, ici et là, comme toujours, dans d'irrépréhensibles arrêts, quoiqu'il se proclamât sans intelligence pour en pénétrer les indéchiffrables considérants. Étant arrivé par cette route à un complet attendrissement, les larmes avaient redoublé dans le silence précaire de l'esprit, et le facteur de la poste avait dû présenter son registre ponctuel au plus beau milieu d'une tempête de pleurs. Dans son actuelle disposition à tout magnifier, la fidélité canine de son ami lui parut immense, surhumaine, et, par un bonheur inouï, il ne se trompait pas. Leverdier était véritablement unique. On pouvait croire qu'il avait été créé spécialement pour cette besogne de se donner à un être d'exception, qui, sans lui, eût été tout à fait seul. Pour employer une image extravagante et monstrueuse, ce dévouement était comme l'appendice génital de la supériorité virile de Marche Noire, probablement inféconde sans ce testicule providentiel. Sa lettre lui fut donc un dictum, un électuaire, un rafraîchissement céleste. Sans hésiter une seconde, il résolut d'accomplir le voyage que lui conseillait un homme dont il avait eu tant d'occasions d'éprouver le pratique discernement. D'ailleurs, cette retraite à la Grande Chartreuse était depuis longtemps un de ses vœux, et lui souriait étrangement. Il était, certes, bien éloigné de la vocation cénobitique. Après la mort de son enfant, il y avait 2 ans, la pensée lui était venue d'essayer de la trappe, et il avait été se faire tâter à la Maison Dieu. L'expérience, fort bien faite, avait donné un résultat surabondamment négatif, et on ne s'était pas gêné pour lui dire qu'une excessive activité d'imagination s'opposait en lui à l'architecture de cet acéphale rigide et pieux qu'on nomme un trappiste. Mais quelques semaines de recueillement dans la mouvance plus intellectuelle de Saint-Bruno lui paraissaient extrêmement désirables. Il pourrait, dans la paix sédative de ce désert, vérifier à l'aise certaines inductions métaphysiques encore insuffisamment élaborées pour un livre qu'il avait entrepris dans les affres écartelantes de son existence de Paris. Surtout, il appurait son âme exténuée à ce rouvre monastique du silence et de la prière qui lui communiquerait sans doute quelque chose de sa tranquille vigueur. Du côté de cette femme que le verdier nommait Véronique et qui n'était pas la maîtresse de Marche Noire, quoiqu'elle vécût avec lui et par lui, la sollicitude pélicane de son même look le délivrait de tout rongeur souci au sujet de la subsistance quotidienne aussi longtemps que durerait sa départie. Il y avait là une histoire aussi simple que peu vraisemblable. Véronique Cheminot, célèbre naguère au quartier latin sous le nom expressif de « la ventouse », était une splendide goujate que 10 années, au moins, de prostitution sur 25 n'avaient pu flétrir. Et Dieu sait pourtant l'effroyable périple de ce paquebot de turpitude. Née dans un port breton, d'une ribaude à matelot malencontreusement fruitée par un cosmopolite inconnu, nourrie on ne savait comment dans cet égout, polluée dès son enfance, putréfiée à 10 ans, vendue par sa mère à 15, on l'avait vue se débiter dans toutes les halles à poissons de la luxure, se détailler à la main sur tous les comptoirs du stupre, pendre à tous les crocs de la grande triperie du libertinage. Le boulevard Saint-Michel l'avait assez connue, cette rousse audacieuse qui avait l'air de porter sur sa tête tous les incendies qu'elle allumait dans les reins juvéniles des écoles. Elle ne passait pas généralement pour une bonne fille. Quoiqu'elle eût fait d'étranges coups de tête pour des hommes qu'elle prétendait avoir aimés, cette avide guerrière se livrait à de terrifiques déprédations qui la rendaient infiniment redoutable aux familles. À l'exception de quelques rares et singuliers caprices qui lui faisaient mettre parfois dans son lit des vagabonds sans asile et qu'on expliquait inexactement par la fangeuse nostalgie de sujétion particulière à ses réfractaires. Ses caresses les plus authentiques étaient d'une vénalité escaladante qui montait jusqu'au lyrisme. Elle avait gardé cette ingénuité de croire fermement que les hommes qui la désiraient étaient tous des apoplectiques d'argent qu'aucune saignée ne pouvait jamais anémier. Sa cupidité, fort à craindre, n'était pourtant pas hideuse. Elle vidait facilement son porte-monnaie dans la main de ses camarades moins achalandés, et quelquefois même ne se refusait pas la fantaisie d'inviter brusquement le premier mendiant guenilleux qu'on rencontrait, à l'inexprimable consternation du type, horripilé de ce convive et menacé, s'il aventurait un mot séditieux, de l'apparition d'Adamastor. Chapitre 22. Marche Noire avait été désigné pour retirer ce maelstrom de la circulation. Il n'y pensait guère, pourtant, quand la chose lui arriva. Il commençait à peine à se remettre et à se radouber de l'énorme tourmente de cœur qui vient d'être racontée. Il ne se sentait nullement disposé à recommencer ses sauvetages, ses rédemptions de captives, qui lui avaient coûté si cher et qui avaient été si nombreux en une dizaine d'années. Quoique les deux plus considérables seulement aient dû être mentionnés à cause de leur durée et du tragique de leur dénouement. D'ailleurs, une grande révolution s'était faite en lui, fort antérieure à la récente catastrophe. Il vivait dans la continence la plus ascétique, et les sophismes de la chair n'avaient plus aucune part aux déterminations victorieuses de sa volonté. Parvenu enfin à la plénitude de sa force intellectuelle et physiologique, il était, de tous les hommes, le plus tendre et le plus inséductible. Aucune circonstance dramatique ne signala le commencement de ses relations avec la ventouse. Ayant cessé, depuis le verdier, le famélique vagabondage de ses débuts, gagnant à peu près sa vie, et aussi souvent celle des autres, par diverses industries dont la littérature était la moins lucrative, connue déjà par des scandales de journaux et même un peu célèbre, ce sombre individu, si différent de tout le monde et qui ne parlait jamais à personne, intrigua fortement la bohémienne, qui le voyait habituellement déjeuner à quelques pas d'elle, dans un petit restaurant du carrefour de l'Observatoire. Ce fut à un point qu'elle prit des informations et rêva d'exercer sur lui son ascendant. Le manège de circonvallation fut banal, comme il convenait, et tout à fait indigne de la majesté de l'histoire. Elle obtint ceci, que Marche Noire, très doux sous son masque de fanatique, répondit, sans même fixer les yeux sur elle, aux remarques saugrenues qu'elle supposait grosses d'une conversation, par d'inanimées monosyllabes qu'on aurait cru péniblement tirées à la poulie du fond d'un puits de silence. Exaspérée de ce médiocre résultat, elle lui dit un jour « Monsieur Marche Noire, j'ai envie de vous et je vous désire. Voulez-vous coucher avec moi ?»« Madame, » répondit l'autre avec simplicité, « vous tombez fort mal. Je ne me couche jamais. » Et c'était vrai. Il travaillait jour et nuit avec furie et ne dormait qu'un petit nombre d'heures dans un fauteuil, ce qui fut laconiquement expliqué. Cette rousse, très stupéfaite, entreprit alors le seul déballage nouveau pour elle, des sages remontrances. Elle parla comme une mère prudente de la nécessité d'une meilleure hygiène, de la longueur des jours et du nécessaire repos des nuits, faites pour dormir, assurait-elle. Enfin, elle crut discerner le besoin, pour un homme de pensée, d'avoir quelqu'un qui s'occupât de ses petites affaires, etc. Marche Noire paya son déjeuner et ne revint plus. Un mois après, rentrant chez lui par un minuit très froid, il la trouva, accroupie et grelottante, sur le seuil de sa porte. Il ne demanda aucune explication, la fit entrer dans sa chambre, alluma du feu, lui montra son lit et se mit au travail. Pas un mot n'avait été prononcé. Elle vint lui passer ses superbes bras autour du cou. « Je t'aime, » lui souffla-t-elle. « Je suis folle de toi. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne voulais plus penser à ce caprice que j'avais eu de te tenir dans mes bras. Mais ce soir, je me serais traînée sur les genoux pour venir ici. Je vois bien que tu n'es pas comme les autres et que tu dois fièrement me mépriser. Tant pis, dis-moi ce que tu voudras, mais ne me repousse pas. » Et l'impudique vaincue, craignant de déplaire par un baiser, se coula par terre à ses pieds et fondit en larmes. Marche Noire eut le frisson de la mort. « Ne sera-ce donc jamais fini ? » pensa-t-il. Il se pencha et, partageant l'épaisse chevelure de cette salamandre en abîme, ondée de flammes, avec une douceur qui était presque de la tendresse, il lui raconta sa pauvreté et son deuil immense. Il lui représenta, sans espoir d'être compris, l'impossibilité de nouer ou de ficeler deux existences telles que les leurs, et son horreur, désormais insurmontable, de tout partage, aussi bien dans le passé que dans l'avenir. À ce mot de « partage », la belle-fille redressa la tête, et sans vouloir se relever, croisant ses mains en suppliante sur les genoux du maître qu'elle s'était choisi. « Pardonnez-moi de vous aimer, » dit-elle d'une voix singulièrement humble. « Je sais que je ne vaux rien, et que je ne mérite pas que vous fassiez attention à moi. Mais il ne peut y avoir de partage. Vous m'avez prise, et je ne peux plus être qu'à vous, à vous seule. Les infamies de mon passé, je me les reproche comme des infidélités que je vous aurais faites. Vous êtes un homme religieux. Vous ne me refuserez pas de sauver une malheureuse qui veut se repentir. Laissez-moi près de vous. Je ne vous demande pas même une caresse. Je vous servirai comme une pauvre domestique. Je travaillerai et deviendrai peut-être une bonne chrétienne pour vous ressembler un peu. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. » Jamais Marche Noire n'avait été si bien ajustée. Il ne se crut pas le droit de renvoyer au marché cette esclave qui lui paraissait s'offrir encore plus à son Dieu qu'à lui. Tous les dangers qui peuvent résulter pour un catholique exact d'une si prochaine occasion habituelle de manquer de continence, il les accepta, avec la certitude résignée de compromettre et de surcharger abominablement sa vie. Quelques jours après, il s'installait avec Véronique, rue des Fourneaux, au fond de Vaugirard, dans un petit appartement d'ouvrier. Alors commença cette cohabitation tant calomniée de deux êtres absolument chastes, à la fois si parfaitement unis et si profondément séparés. La formidable machine à vanner les hommes, qui s'était appelée la ventouse, devint par miracle une fille très pure et un encensoir toujours fumant devant Dieu. Les pratiques religieuses, d'abord commencées en vue de s'identifier avec l'homme qu'elle aimait, devinrent bientôt un besoin de son amour même, transfiguré, transporté dans l'infini. Chapitre 23. Il y eut peu de monde à l'enterrement, les pauvres cercueils n'étant pas, à Périgueux plus qu'ailleurs, convoyés par des multitudes. Il est vrai que Marche Noire, ayant oublié jusqu'au nom de la plupart de ses concitoyens d'autrefois, s'était borné à faire insérer dans l'écho de Vézone un entrefilet de convocation générale aux obsèques du défunt. D'ailleurs, la liturgie mortuaire de l'Église, la plus grande chose terrestre à ses yeux, agissait sur tout son être en cette circonstance, avec une force inouïe, et l'exiguïté du bétail condolant ne fut inaperçue que de lui. Pour un pareil désenchantement de la vie, qui n'en connut jamais que les plus atroces rigueurs, et qui semblait avoir été créé eunuque aux joies de ce monde, il y avait dans l'appareil religieux de la mort une force de vertige qui le confisquait tout entier avec un absolu despotisme. C'était la seule majesté à laquelle ce révolté ne résista pas. On l'avait vu souvent suivre des enterrements d'inconnus, et il fallait qu'il fût bien pressé pour ne pas entrer dans une église, lorsque le seuil tendu de noir l'avertissait de quelque cérémonie funèbre. Combien d'heures il avait passé dans les cimetières de Paris, à des distances infinies du vacarme social, déchiffrant les vieilles tombes et les surannées épitaphes des adolescents en poussière, dont les contemporains étaient aujourd'hui des ancêtres et dont personne au monde ne se souvenait plus. Aux yeux de ce contempteur universel, la mort était vraiment la seule souveraine qui eut le pouvoir d'ennoblir pour de bon la fripouille humaine. Les médiocres les plus abjects lui devenaient augustes aussitôt qu'ils commençaient à pourrir. La charogne du plus immonde bourgeois, se calant et se cantonnant dans sa bière pour une sereine déliquescence, lui paraissait un témoignage surprenant de l'originelle dignité de l'homme. Cette irraisonnée induction, venant à refluer intérieurement sur le plexus syllogistique de son esprit, Marche Noire avait toujours été rempli de conjectures devant tous les signes funèbres. Sans doute, les oracles de la foi touchant les fins dernières et l'ultime rétribution de l'animal responsable suffisaient à ce croyant. Mais le visionnaire qui était au fond du croyant avait de bien autres exigences que Dieu seul, sans doute, eût été capable de satisfaire. Précisément, ce mot d'exigence le faisait bondir. Lui que l'amour avait tant déchiré, il se raidissait en des transports de rage contre la rhétorique de résignation, qui nomme repos ou sommeil la liquéfaction des yeux et le rongement des mains de l'être aimé, et le grouillement d'ailes maintes de sa bouche, et tous les viols inexprimables de la matière sur cette argile si vainement spiritualisée. Il trouvait que l'exigence n'était vraiment pas du côté d'un homme à qui on prenait sa femme ou son enfant, pour en faire il ne savait quoi, et qu'on priait d'attendre jusqu'à la consommation des siècles. Si ce n'était pas là une dérision à faire crouler les étoiles, c'était terriblement demandé en échange de dons si précaires. Même en sachant tout, ce serait intolérable. Et la vérité, c'est qu'on ne sait rien. Absolument rien, sinon ce que le christianisme a voulu nous dire. Mais quoi? C'est un atome d'espérance pour contrepeser un monde de terreur. La religion seule donne la certitude de l'immortalité, mais c'est au prix de l'enfer possible, de la défiguration sans retour, du monstre éternel. Cette pauvre créature qu'il pleure, le misérable, et qu'il appelle en de désolées clameurs du fond de ses nuits, qui fut son paradis terrestre, son arbre de vie, son rafraîchissement, sa lumière et sa paix dans ses combats. Qu'il n'aille pas s'imaginer, au moins, qu'il lui suffise de l'avoir vu mourir et d'avoir livré le déplorable corps aux dévorants hideux qui sont sous la terre. Si son âme est profonde, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Il y a, qui ne l'oublie pas, le ciel et l'enfer, c'est-à-dire une chance de béatitude contre 1 700 000 de malédictions et de hurlements sempiternels, ainsi que l'enseigne M. saint Thomas d'Aquin, dont le bon pasteur ne paraît pas avoir prévu les doctrines. Les irrésistibles entraînements de cœur qui jetèrent dans ses bras l'infortuné, les caresses presque chastes, mais non permises, qui lui faisaient oublier un instant l'abomination de sa misère, pendant qu'il s'attendrit confortablement sous les marronniers en fleurs, elle est probablement en train de les expier, d'une façon qu'on ne pourrait pas, sans crever de rire, le voir entreprendre de conjecturer. C'est toute la puissance divine qui est en armes, pour supplicier cette douce fillette qui buvait les pleurs de ses yeux et qui se mettait à genoux pour laver ses pieds en sang quand il avait trop marché pour sa rédemption. C'est maintenant contre elle toute une armée de Xerxès d'épouvantement. La plus intime essence du feu sera tirée de l'actif noyau des astres les plus énormes pour une inconcevable flagrance de torture qui n'auront jamais de fin. Cette affreuseté de la putréfaction sépulcrale qui est à faire se cabrer les cavalcades de l'Apocalypse, ah, ce n'est rien, c'est la beauté même, comparée à l'infamation surnaturelle de l'image de Dieu dans ce brûlant pourrissoir. Le désolé catholique avait eu souvent de ces pensées qui le roulaient par terre, rugissant, épileptique, écumant d'horreur. 10 000 ans de séparation, criait-il, je le veux bien, mais au moins, que je sache où ils sont, ceux que j'ai aimés. Obsécration insensée d'une âme ardente. Il aurait tout accepté, le diadème de crapaud, le mouvant collier de reptile, les yeux de feu luisant au fond des arcades de vermine, les bras visqueux, tuméfiés, pompés par les limaces ou les araignées, et l'épouvantable ventre plein d'antennes et d'ondulements. Enfin, des apparitions à le tuer sur place. S'il eût été possible d'apprendre quelque chose, au prix de cette monstrueuse profanation de ses souvenirs. Et maintenant, au bord de la fosse, où le prêtre étant parti, les pelletées de terre tombaient comme des pelletées de siècle sur le nouveau stagiaire de l'éternité, il ne trouvait, en fin de compte, d'autre refuge que la prière. Cette âme lassée ne s'épuisait plus en sursauts et en convulsions inutiles. Catholique étonnamment fidèle, il s'arrangeait pour retenir le dogme tridentin de l'enfer interminable en écartant l'irrévocabilité de la damnation. Il avait trouvé le moyen de mettre debout et de donner le souffle de vie à cette antinomie parfaite qui ressemblait tant à une contradiction dans les termes, quoiqu'elle devint une opinion singulièrement plausible quand il l'expliquait. Mais la prière seule lui était vraiment bienfaisante. L'infinie simplicité de la prière, par laquelle une vie puissante et cachée sourdait tout au fond de lui, par-dessous les plus ignorés abîmes de sa pensée. Il resta longtemps à genoux, si longtemps que les fossoyeurs achevèrent leur besogne, et, plein d'étonnement, l'avertirent qu'on allait fermer la porte du cimetière. Il eut une satisfaction à s'en aller seul, ayant fort redouté les crocodiles du sympathique regret. Son départ de Périgueux était fixé pour le lendemain, et il se proposait de ne voir personne. Il rentra donc immédiatement, se fit apporter une nourriture quelconque, et passa une partie de la nuit à écrire la lettre suivante à son ami le verdier. Chapitre 24. J'ai reçu ton argent, mon fidèle, mon unique Georges. Je ferai ce que tu me conseilles de faire, comme si c'était la troisième personne divine qui eût parlé. Et voilà tout mon remerciement. J'arrive du cimetière et je pars demain pour la Grande Chartreuse. Je t'écris afin de me reposer en toi des émotions de ces derniers jours. Elles ont été grandes et terribles. Une virginité de cœur m'a été refaite, je pense, tout exprès pour que je visse expirer mon père, que je ne croyais, certes, pas aimer tant que cela. Tu sais combien peu de place il avait voulu garder dans ma vie. Nous nous étions endurcis l'un contre l'autre depuis longtemps, et je n'attendais rien de plus que cette obscure trépidation que donne à des mortels la vision immédiate et sensible de la mort. Il s'est trouvé qu'il m'a fallu prendre une hache et trancher des câbles pour échapper à ce trépassé qu'on portait en terre. Je suis saturé, noyé de tristesse, mon ami. Ce qui ne me change guère, tu en conviendras, mais la grande crise est passée, et le voyage de demain m'apparaît comme une de ces aubes glacées et apaisantes que je voyais poindre il y a 2 ans, du fond de mon lit de fiévreux, après une nuit de fantômes. Ils encombrent désormais ma vie, les fantômes. Ils m'environnent, ils me pressent comme une multitude, et les plus à redouter, hélas, ce sont encore les innocents et les très pâles qui me regardent avec des yeux de pitié et qui ne me font pas de reproches. Je viens de parcourir, en gémissant, cette pauvre maison de mon père où je suis né, où j'ai été élevé, et qu'il va falloir vendre pour payer d'anciennes dettes, ainsi qu'on me l'a expliqué. La mélancolique sonorité de ces chambres vides, plafonnées pour mon imagination de tant de souvenirs anciens, a retenti profondément en moi. Il m'a semblé que j'errais dans mon âme déserte à jamais. Pardonne-moi, mon bon Georges, ce dernier mot. Je crois que je ne pourrai jamais dire exactement ce que tu es pour le sombre marche noire. J'ai eu un frère aîné mort très jeune, dans la même année que ma mère. Tout à l'heure, j'ai retrouvé des objets enfantins qui lui ont appartenu. Je t'en ai déjà parlé. Il s'appelait Abel, et c'est sans doute ce qui détermina mon père à m'accoutrer de ce nom de Caïn dont je suis si fière. Je l'aurais peut-être aimé beaucoup s'il avait pu vivre, mais je ne me le représente pas comme toi, et je ne te nommerai pas volontiers mon frère. Tu es autre chose, un peu plus ou un peu moins, je ne sais au juste. Tu es mon gardien et mon toit, mon holocauste et mon équilibre. Tu es le chien sur mon seuil. Je ne sais pas plus que tu es, que je ne sais ce que je suis moi-même. Mais quand nous serons morts à notre tour, si Dieu veut faire quelque chose de nos poussières, il faudra qu'il les repétrisse ensemble, cet architecte, et qu'il regarde à trois fois avant d'employer l'étrange ciment qui lui collera ses mains de lumière. Tu as sans doute raison de me reprocher d'avoir écrit à Du Laurier, et j'ai raison aussi, très probablement, de l'avoir fait. Il a jugé convenable de me répondre par une lettre qui le déshonore. N'est-ce pas là un beau résultat? Tout ce que tu m'écris de lui, il a pris la peine de me l'écrire lui-même. Le pauvre garçon, c'est à peine s'il se cache de la terreur que je lui inspire. Franchement, j'avais cru que ce sentiment bien connu de moi, à défaut de magnanimité, vaincrait son avarice et le déterminerait à me rendre le facile service que je lui demandais. Il a eu la bonté de me conseiller la fosse commune en me rappelant à l'humilité chrétienne. Pour être si imprudent, il faut qu'il me croie tout à fait vaincu. Autrement, ce serait par trop bête d'outrager un homme dont la mémoire est fidèle et qui a une plume pour se venger. Quant au docteur, je ne l'avais pas prévu dans cette affaire. Ah, ils sont dignes de s'estimer et de se chérir, ces négriers de l'amitié, qui m'ont jeté par-dessus bord à l'heure de prendre chasse, et qui mettraient à mes pieds les trésors de leur dévouement si j'obtenais un succès qui me rendit formidable. Avec quelle joie je leur ai renvoyé leur argent, tu le devines sans peine. Mais laissons cela. J'ai reçu la visite du notaire de la famille. Je lui suppose d'autres clients, car il est gras et luisant comme un lion de mer. Cet authentique personnage m'apportait d'infinies explications auxquelles je n'ai rien compris, sinon que mon père, vivant uniquement d'une pension de retraite, ne laisse absolument que sa maison et le mobilier, l'un et l'autre de peu de valeur, ce que je savais aussi bien que lui. Mais il m'a révélé certaines dettes que j'ignorais. Il faut tout vendre, et l'acquéreur est déjà trouvé, paraît-il. J'ai même cru démêler que je pouvais bien en être séparé que de l'envergure d'un large soufflet. N'importe, j'ai signé ce qu'il a fallu, le drôle ayant tout préparé d'avance. Les pauvres n'ont pas droit à un foyer. Ils n'ont droit à rien, je le sais. Et je me suis cerclé le cœur avec le meilleur métal de ma volonté pour signer plus ferme. On me fait espérer un reliquat de quelques centaines de francs qui me seront envoyés, le tripotage consommé. Ce sera mon héritage. Si ton général des Chartreux veut me gratifier de son côté, il m'en coûtera peu de recevoir l'aumône de sa main. Nous pourrons alors faire l'acquisition d'un nouveau cheval de bataille pour la revanche ou pour la mort. J'ai le pressentiment que ce sera plutôt la mort, et je crois vraiment qu'il me faudrait la bénir, car je commence à furieusement me lasser de jouer les tantales de la justice. Dis à ma chère Marie l'Égyptienne qu'elle continue de prier pour moi dans le désert de notre aride logement. Elle ne pourrait rien faire qui me fût plus utile. Tu ne comprends pas trop bien tout cela, toi, mon pauvre Seyd. Tu ne sais que souffrir et te sacrifier pour mon service, comme si j'étais un Manitou de première grandeur. Et la merveille sans rivale de cette fille consumée de l'amour mystique est presque entièrement perdue pour toi. Tous les prodiges de l'exode d'Égypte se sont accomplis en vain, sous tes yeux, en la personne de cet échappé à l'ergastule des adorateurs de chats et des mangeurs de vomissements à l'oignon de la luxure. Pour moi, je grandis chaque jour dans l'admiration, et je m'estime infiniment honoré d'avoir été choisi pour récupérer cette drachme perdue. cette perle évangélique, flairée et contaminée par le groin de tant de pourceaux. Il est étrange que je sois précisément l'homme qu'il fallait pour rapprocher deux êtres si exceptionnels et si parfaitement dissemblables. Dans votre émulation à me chérir, c'est toi, l'homme de glace, qui me brûle, et c'est elle, l'incendiée, qui me tempère. Tu ne te rassasies jamais de ce que tu nommes mes audaces, et elle tremble parfois de ce qu'elle appelle naïvement mes justices. En même temps, vous vous reprochez l'un à l'autre de m'exaspérer. Chers et uniques témoins de mes tribulations les plus cachées, vous êtes bien inouïs tous les deux, et nous faisons, à nous trois, un assemblage bien surprenant. Aujourd'hui, tu m'envoies à la Chartreuse, du même air d'oracle dont tu voulus, autrefois, me détourner d'aller à la trappe. Seulement, cette fois, je t'obéis sans discussion, et même avec autant d'allégresse qu'il est possible. Tel est le progrès de ton génie. Tu te portes garant de la roborative et intelligente hospitalité des Chartreux. Je le crois volontiers. Cependant, il est peu probable que j'écrive beaucoup dans leur maison. Mais je ferai de l'ordre dans le taudion de mes pensées, et je ferai passer le fleuve de la méditation la plus encaissée au travers des écuries d'Augias de mon esprit. Quel livre pourrait être le mien pourtant si j'enfantais ce que j'ai conçu? Mais quel accablant, quel formidable sujet! Le symbolisme de l'histoire, c'est-à-dire l'hiérographie providentielle, enfin déchiffrée dans le plus intérieur arcane des faits et dans la cabale des dates. Le sens absolu de signes chroniques, tels que Pharsale, Théodoric, Cromwell ou l'insurrection du 18 mars, par exemple, et l'orthographe conditionnelle de leurs infinies combinaisons. En d'autres termes, le calque linéaire du plan divin rendu aussi sensible que les délimitations géographiques d'un planisphère, avec tout un système corollaire de conjecturales à perception dans l'avenir. Ah, ce n'est pas encore ce livre qui me fera populaire, en supposant que je puisse le réaliser. Je te quitte, mon ami. La fatigue m'écrase et l'heure galope avec furie. J'ai hâte de fuir cette ville où je n'ai que des souvenirs de douleur et des perspectives de dégoût. Or, j'ai beaucoup à brûler avant mon départ dans cette maison qu'on va vendre. Je ne veux pas de profanation. Mais ça ne va pas être fertile en gaieté non plus, cette exécution de toutes les reliques de mon enfance. Bonsoir, mes chers fidèles, et au revoir dans quelques semaines. Marie-Joseph Cain, Marche Noire. Chapitre 25. Le surlendemain, Marche Noire commençait à pied l'ascension du désert de la Grande Chartreuse. Lorsqu'il eut franchi ce qu'on appelle l'entrée de fourvoirie, rainure imperceptible entre deux rocs monstrueux, au-delà desquels la vie moderne paraît brusquement s'interrompre, une sorte de paix joyeuse fondit sur lui. Il allait enfin savoir à quoi s'en tenir sur cette maison fameuse dans la chrétienté, si bêtement entretenue de nos jours à travers les fumées de l'alcoolisme démocratique. Ruche alpestre des plus sublimes ouvriers de la prière. De cela qu'un vieil écrivain comparait au brûlant des cieux et qu'il appelait, pour cette raison, les séraphins de l'église militante. Les gens badigeonnés d'une légère couche de christianisme, qui veulent que les pèlerinages soient commodes, affirment sous serment que le monastère est inaccessible dans la saison des neiges. L'effet heureux de ce préjugé est une restitution périodique de l'antique solitude carthusienne, tant désirée par saint Bruno pour ses religieux. L'énorme affluence des voyageurs, dans ce qu'on est convenu d'appeler la belle saison, doit être, pour les solitaires, une bien pesante importunité. La foi du plus grand nombre de ces curieux n'aurait certainement pas la force évangélique qui fait bondir les montagnes. Et beaucoup viennent et s'en vont qui n'ont pas d'autre bagage spirituel que le très sot journal d'un touriste sans ingénuité. N'importe. Ils sont reçus comme s'ils tombaient du ciel. Aérolites mondains de peu de fulgurance, qui ne déconcertent jamais l'accueillante résignation de ces moines hospitaliers. La grande chartreuse doit donc être visitée en hiver par tous ceux qui veulent se faire une exacte idée de cette merveilleuse combinaison de la vie érémitique et de la vie commune qui caractérise essentiellement l'ordre carthusien et dont la triomphante expérience accomplit tout à l'heure son 8e siècle. Fondée en 1084, la famille de Saint-Bruno, rouvre glorieux qui couvrit le monde chrétien de sa puissante frondaison, seule entre toutes les familles religieuses a mérité ce témoignage de la papauté. Carthusia nunquam reformata, quia nunquam deformata. L'ordre des Chartreux, ne s'étant point déformé, n'a jamais eu besoin d'être réformé. Dans un siècle aussi jeté que le nôtre aux lamproies ou aux murènes de la définitive anarchie qui menace de faire ripaille du monde, il est au moins intéressant de contempler cet unique monument du passé chrétien de l'Europe, resté debout et intact, sans ébranlement et sans macule, dans le milieu du torrent des siècles. D'où cela vient-il ? Dit un auteur chartreux contemporain. De la sagesse qui accompagne nécessairement les résolutions du définitoire, puisque ces ordonnances n'obligent qu'après avoir été mises à l'essai, puisque ces constitutions doivent être approuvées par ceux qui ne les ont pas faites. Ce qui nous a sauvés, c'est ce définitoire libre, impartial, toujours indépendant, puisque les religieux qui peuvent et doivent le composer arrivent en chartreuse, ignorants ou incertains de leur nomination. Ils y viennent alors sans idée préconçue, sans parti pris. La brigue et la cabale seraient impossibles. Dans les séances annuelles du chapitre général, la première occupation de cette assemblée est de former le définitoire, composé de 8 définiteurs nommés au scrutin secret et n'ayant point fait partie du définitoire de l'année précédente. Ce définitoire, sous la présidence du RP général, est chargé du bien de tout l'ordre et exerce, conjointement avec le chef suprême, la plénitude du pouvoir, en vue d'ordonner, de statuer et de définir. Ce qui nous a sauvés, c'est l'énergie de cette espèce de concile, composée de membres des différentes nations qui, pour la plupart, n'ont point vécu et ne doivent point se retrouver avec ceux qu'ils frapperont d'une juste sentence. Parfaitement libre, il n'a jamais reculé, en aucune occasion, devant un coup d'énergie. Jamais dans l'ordre entier, jamais dans une province, un abus n'a été approuvé, même tacitement. Nous pouvons même dire, histoire en main, que jamais un manquement grave aux règles fondamentales de la vie carthusienne n'a été toléré dans aucune chartreuse. Le définitoire a averti, patienté, insisté, menacé. Enfin, il a pris un moyen extrême, mais décisif, en vue du bien commun. Il a rejeté telle maison qui n'observait plus la règle dans son entier et refusait de s'amender et de se soumettre. Il l'a rejetée, déclarant que ni les personnes ni les biens n'appartenaient plus à l'ordre, laissant aux réfractaires édifices, rentes, propriétés, tout, excepté le nom de Chartreux et la règle de Saint-Bruno. Carthusia nunquam deformata. Parce que dès que l'ordre prit de l'extension, au commencement du 12e siècle, nos ancêtres surent nous donner une constitution aussi forte qu'elle était large, aussi sage qu'elle était gardienne de la seule vraie liberté qui consiste, non point à pouvoir faire le mal ou le bien, mais au contraire à être dans l'heureuse nécessité de ne faire que le bien, tout en choisissant, parmi ce qui est bien, ce qui nous paraît le meilleur. Du reste, il suffit de franchir les limites de ce célèbre désert pour sentir l'absence soudaine du XIXe siècle et pour avoir, autant que cela est possible, l'illusion du XIIe. Mais il faut que la route ne soit pas encombrée par les caravanes tapageuses de la curiosité. Alors c'est vraiment le désert, sourcilleux et formidable, que Dieu lui-même, dit-on, avait désigné à son serviteur Bruno et à ses 6 compagnons pour que leur postérité spirituelle y chantât, pendant 800 ans, au moins, dans la paix auguste des hauteurs, la jubilation de la terre devant la face du Seigneur roi. Jubilate Deo omnis terra, jubilate in conspectu regis domini. Marche Noire n'avait jamais savouré si profondément la beauté religieuse et pacifiante du silence que dans cette montée de la Grande Chartreuse, entre Saint-Laurent-du-Pont et le monastère. La nuit avait été fort neigeuse, et le paysage entier, vêtu de blanc comme un chartreux, éclatait aux yeux sous la mâture grise d'un ciel bas et lourd, qui semblait s'accouder sur la montagne. Seul, le torrent qui roule au fond de la gorge sauvage tranchait par son fracas sur l'immobile taciturnité de cette nature sommeillante. Mais, à la manière d'une voix unique dans un lieu très solitaire, cette clameur d'en bas, qui montait en se dissolvant dans l'espace, y était dévorée par ce silence dominateur et le faisait paraître plus profond encore et plus solennel. Il se pencha pour regarder en rêvant cette eau folle et bondissante qu'on appelle si improprement le guier mort, et dont la couleur, pareille au bleu de l'acier quand elle se précipite, ressemble à une moire verte, ondulée d'écume, quand elle se recueille, en frémissant, dans une conque de rochers, pour un élan plus furieux et pour une chute plus irrémédiable. Il se prit à songer à l'énorme durée de cette existence de torrent qui coule ainsi, pour la gloire de Dieu, depuis des milliers d'années, bien moins inutilement sans doute que beaucoup d'hommes qui n'ont certes pas sa beauté, et qu'il a l'air de fuir en grondant pour n'avoir pas à refléter leur image. Il se souvint que saint Bernard, saint François de Sales et combien d'autres, après saint Bruno, étaient venus en ce lieu. Que des pauvres ou des puissants, évadés du monde, avaient passé par là, pendant une moitié de l'histoire du christianisme, et qu'ils avaient dû être sollicités, comme lui-même, par cette figure perpétuellement fuyante de toutes les choses du siècle. Une méditation de cette sorte, et dans un tel endroit, est singulièrement puissante sur l'âme, et recommandable aux ennuyés et aux tâtonnants de la vie. Marche Noire, aussi blessé et aussi saignant que puisse l'être un malheureux homme, sentit une douceur infinie, un calme de bonne mort, insoupçonné jusqu'à cet instant. Il se baigna dans l'oubli de ses douleurs immortelles, hélas, et qui devaient un peu plus tard le ressaisir. À mesure qu'il montait, sa paix grandissait en s'élargissant. Tout son être se fondait et s'évaporait dans une suavité presque surhumaine. Une page adorable de naïveté qu'il avait autrefois apprise par cœur, tant il la trouvait belle, lui revenait à la mémoire et chantait en lui, comme une harpe d'éole de fil de la Vierge animée par les soupirs des séraphins. Cette page, il l'avait trouvée dans une ancienne vie de ce célèbre père de Condran, dont la doctrine était si sublime, paraît-il, que le cardinal de Bérulle écrivait à genoux tout ce qu'il lui entendait dire. Voici en quels termes cet étonnant personnage s'exprimait sur les chartreux. Ce sont des hommes choisis de Dieu pour exprimer, le plus naïvement et exactement qu'il est possible à des créatures humaines, l'état de ceux que l'Écriture appelle les enfants de la résurrection. et pour vivre dans un corps mortel comme s'ils étaient de purs esprits immortels. Ils sont donc sans cesse élevés hors d'eux-mêmes dans une contemplation des choses divines. Et il n'y a point de nuit pour eux, puisque c'est durant les ténèbres de la terre qu'ils font les saintes opérations des enfants de lumière. Ils sont tous honorés du saint caractère de la prêtrise, comme saint Jean témoigne que tous les saints seront prêtres dans le ciel. Leurs habits sont de la couleur de ceux des anges lorsqu'ils apparaissent aux hommes. Leur modestie et leur innocence est un tableau de la sage simplicité et de la droiture des bienheureux. Leur habitation dans les montagnes de la Grande Chartreuse n'est point un séjour pour des personnes du monde. Il faut n'avoir rien que l'esprit pour subsister dans une telle demeure. Aussi peut-on sortir des tombeaux de toutes sortes de monastères pour aller revivre parmi ces saints ressuscités. Mais lorsqu'on est parvenu dans ce paradis, il n'y a plus rien à espérer sur la terre. On y peut venir de tous les endroits du monde, même des plus sacrés, mais lorsqu'on est arrivé dans cette maison de Dieu et cette porte du ciel, il faut être saint, ou on ne le deviendra jamais. « Être saint ? » cria Marchenoir, « comment délire ? Qui peut l'espérer ? » Job, dont on célèbre la patience, a maudit le ventre de sa mère il y a 4000 ans, et il faut des centaines de millions de désespérés et d'exterminés pour faire la bonne mesure des souffrances que l'enfantement d'un unique élu coûte à la vieille humanité. Sera-ce donc toujours ainsi, ô Père céleste, qui avait promis de régner sur terre ?